Merci tout d'abord de participer à ce webinaire qui est la première action du GT Collège du Livre, lancé cette année par Nina Kulikoff et Cédric Vigneault. Voilà, ce premier webinaire qu'on a appelé tout simplement La place de l'édition scientifique publique dans le panorama de l'écologie du livre. Avant de nous lancer dans le sujet, je vais me présenter tout brièvement parce qu'en fait, ce webinaire est issu du mémoire de recherche que moi j'avais réalisé en 2024 parce qu'effectivement, moi j'ai fait un master de l'édition et à cette occasion, on a dû faire un mémoire de recherche que moi j'ai soutenu en 2024. Et du coup, je vous ai mis ici le plan. Aujourd'hui, on va bien évidemment pas explorer toutes les parties, mais en fait, ce qu'on veut utiliser, c'est surtout les données de la deuxième partie, donc l'édition scientifique publique, l'état des lieux, parce qu'en fait, c'est pour cette partie-là que moi, j'ai dû faire un sondage et des entretiens individuels qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, j'ai essayé de comparer ces données avec celles de l'édition privée. Donc plutôt l'édition indépendante, on va voir aussi pourquoi. Donc ce webinaire va prendre surtout ces deux parties. Petite précision, pour l'instant, ce mémoire n'est pas disponible sur Internet parce qu'effectivement, ça fait un an et pour certaines données, il faut que je retravaille encore. Il y a encore des parties que je retravaillais et je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc un premier volet de ce webinaire, c'est ce mémoire-là. Et le deuxième volet, c'est parce que, en fait, depuis 2 ans, je fais partie de l'Association pour l'écologie du livre. Qu'est-ce que c'est? C'est une association interprofessionnelle qui regroupe les libraires, les éditeurs et les bibliothécaires. Et en fait, nous, on a plusieurs volets d'action qui vont de plaidoirie au renseignement, aux enquêtes, aux sondages aussi, surtout pour le privé, pour le coup. Mais voilà, donc ça fait 2 ans que moi aussi, je suis avec cette association. Pour cet asso, donc on fait aussi une gazette presque annuelle qui s'appelle Le Papier Déchaîné, qui regroupe aussi des infographies, des impressions de terrain, des portraits croisés, des sondages, mais aussi des poèmes et des écofictions. Donc dans ce Papier Déchaîné, qui est en ligne. Vous pouvez trouver aussi des informations techniques et concrètes comme tel pourcentage de l'édition fait ci, voilà. Et puis aussi notre manifeste qui était le livre Est-il écologique est publié chez Wild Project. Et du coup, je m'en suis pas mal inspirée aussi pour ce mémoire et pour la suite de mes recherches. Donc avant de vous présenter Ben si, je vais vous présenter tout de suite le plan, mais je tiens à vous dire que effectivement, pour ce webinaire, on va voir pas mal de données. Je vais essayer de passer rapidement parce que, comme je vous disais déjà, le webinaire, il sera enregistré, mais aussi, on va vous envoyer cette présentation. Donc, si je m'attarde pas beaucoup sur les valeurs, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir sur toutes les données, mais aussi, vous pouvez intervenir à tout moment pour poser des questions. Moi, à chaque fois que j'explore une donnée, je vais essayer de donner les raisons pourquoi cette donnée est importante et quels sont les enjeux. Mais aussi, vu que moi, je suis la seule à modérer, entre guillemets, je vous prie de mettre vos questions dans le chat et qu'on prendra un temps tout à la fin pour y répondre. Parce qu'effectivement, on a prévu de faire un temps d'échange assez conséquent. Donc, on aura le temps d'en discuter et d'avoir vos questions, vos ressentis aussi par rapport à tout ce que moi je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, le plan, comme je disais, on va commencer avec la présentation des résultats que moi j'ai obtenus grâce à mon sondage et aux entretiens individuels. On va tout de suite les comparer avec les données de l'édition privée. Surtout pour des sujets comme le tirage, le pilon ou les paramètres d'impression. Et enfin, on va discuter de ce qu'on peut mettre en place dans notre service éditorial pour réduire notre impact environnemental. Et puis, effectivement, comme je vous disais, on va terminer avec un temps d'échange. Donc, moi, je ne vois pas le chat. Donc, si jamais vous avez des questions pendant par rapport à tout ce que moi je dis actuellement, n'hésitez pas à intervenir directement en allumant votre micro. Donc, ce sondage, je vais faire plutôt comme ça. Ce sondage a été distribué, enfin diffusé entre le 6 mars et le 6 mai 2024 sur plusieurs réseaux, notamment comme celui de Medici, le réseau de l'Association pour l'écologie du livre et LinkedIn. Et au final, il y a eu 24 services. En fait, il y en a eu 27, mais deux services ont répondu deux fois. Et un des services était plutôt une plateforme de diffusion numérique, donc les réponses n'étaient pas éligibles. Et voilà les questions. Je passe très rapidement parce que, comme je vous disais, de toute façon, on va avoir les réponses et puis vous aurez le temps de revenir si vous le souhaitez. Mais en fait, toutes les questions étaient concentrées sur les aspects techniques. Donc, c'était plutôt le tirage moyen, le nombre de publications à l'année, le grammage du papier à l'intérieur, le grammage du papier de la couverture. Les embellissements, l'utilisation de blisters, l'utilisation du pelliculage, si les services avaient recours à la réimpression, au pilon, qu'est-ce qu'il en était du retour, du taux de livres abîmés, ce genre d'informations. Donc, on va commencer avec la toute première donnée, qui est celle du nombre de titres parus à l'année. Donc, on voit qu'il y a deux pôles, un premier entre 15 et 25 titres pour 9 services et maximum 10 titres pour 10 services. Donc après, effectivement, on a notamment des services qui font plus de 25 titres, entre 35, 40, 60, 70, jusqu'à 200 titres, mais c'est quand même très minoritaire. Donc on va dire que la majorité des répondants avaient une publication plus ou moins modeste, donc maximum 10 titres, ou relativement un peu plus conséquente, on va dire entre 15 et 25 titres. Et je tiens à préciser que tous les répondants du sondage publié dans les sciences humaines et sociales et le sondage concernait plutôt les monographies. Donc, dans cette étude, on ne voit pas du tout les paramètres techniques des revues, ni le côté numérique, parce que du coup, c'est plus les revues qui sont concernées par ça, même si les monographies sont de plus en plus mises aussi à disposition en ligne. Mais voilà, pour récapituler, c'est plutôt les monographies et c'est plutôt l'édition imprimée. Voilà. Ensuite, pour le tirage moyen, on a une petite majorité de 7 répondants, pardon, à 300 exemplaires. Mais ce qu'on voit en fait ici, c'est que chaque service, entre guillemets, a un tirage particulier. Donc, on a entre 200 et 300, 150 et 170. Même si de l'autre côté du spectre, on a aussi des tirages assez élevés, comme 700, 650 exemplaires. Ou 400 exemplaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité tire à 300 exemplaires. Pour le type de papier et le grammage de papier, comme on peut voir pour l'intérieur, la grande majorité, donc 11 services, utilisent plutôt du non-couché. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la différence entre du papier non-couché et le couché, c'est la présence d'un film en plastique. Pour les papiers couchés. Et en fait, cette fine couche de plastique a ses avantages. Quand par exemple le papier va avoir moins d'encre, il va moins baver aussi. Le rendu visuel va être un peu plus performant. Mais en fait, cette couche va empêcher très fortement le recyclage parce que du coup, le papier ne va pas pouvoir être tout de suite broyé, par exemple, ni mouillé. Et aussi, si jamais, par exemple, on pensait que le livre finissait dans la nature, eh ben, il va être dissous beaucoup plus difficilement. Donc, c'est pour ça que cette donnée était importante. Et l'offset, c'est un peu un papier qui est entre les deux, qui est très performant et qui est plutôt non couché. Donc, on voit que la grande majorité utilise du papier non couché, ce qui est plutôt bien. Du coup, on peut dire que ce papier va être plus facilement recyclé et que, il n'y a pas de plastique en plus. Pour la couverture, par contre, c'est plus le papier couché qui est privilégié. On peut dire que ça a ses raisons. Comme je disais, ça va aussi solidifier le papier, donc pour la couverture, ça va être un peu plus robuste. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ces services qui utilisent du papier couché utilisent du pelliculage en plus? Parce que du coup, le pelliculage, c'est aussi une autre couche de plastique qui vient protéger le papier, donner un rendu visuel mat ou satiné. Voilà, ça peut changer. Voilà. Donc, et pour le grammage du papier, encore une fois, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est en fonction de notre grammage qu'on va quantifier la quantité de papier qu'on utilise. Et c'est là qu'on peut voir si on peut faire des économies. Donc, plus on réduit le grammage du papier, plus on va économiser du papier, entre guillemets. Et donc, pour ça, par exemple, la plupart des services, donc 14 services, utilisent du papier à 90 grammes pour l'intérieur. Et pour la couverture, on est plutôt à 300 grammes avec 9 services, même si les papiers à 280 et 250 grammes sont plutôt privilégiés aussi. Ensuite viennent les labels. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que la moitié des répondants utilisent soit FSC, soit PEFC. Pourquoi soit? Parce qu'en fait, on ne peut pas cumuler ces deux labels. Il y a souvent un de ces labels. C'est bien d'utiliser des papiers labellisés, mais en fait, là aussi, le problème, c'est que ces labels, comme on va voir tout à l'heure, ces labels ne donnent aucune information sur la provenance de la pâte à papier ni du bois utilisé pour la pâte à papier. Ces labels certifient uniquement le respect des normes éco-responsables pour l'exploitation du bois. Donc, c'est plus valable vers la fin de la chaîne de la production du papier, et de dire si, par exemple, le pays qui exploite ces zones forestières respecte les lois éco-responsables de son propre pays. Donc là, on peut dire que les normes sont nationales et les labels respectent les lois nationales. Donc, ce qui veut dire que un papier français FSC et un papier bulgare FSC, il peut y avoir beaucoup de différences. Par exemple, parce que du coup, en Bulgarie et en Roumanie, les coupes rases sont permises par les lois. Donc, ça veut dire qu'un papier roumain FSC va quand même produire de la déforestation et peut aboutir à des monocultures, alors qu'un papier FSC français empêchera un peu plus ce genre de problèmes environnementaux. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est bien d'avoir des labels, mais il faut savoir que ces labels ne sont pas du tout garants du respect de la protection contre tous les enjeux environnementaux qu'on peut avoir, comme justement, comme je le disais, les coupes rases, les monocultures, mais aussi le déplacement des peuples indigènes qui habitent dans ces zones. Ce problème est surtout dans l'Amérique du Sud, par exemple. Pour les autres services, il y a d'autres labels qui sont utilisés aussi. Donc, c'est 4 services qui utilisent d'autres labels en plus du FSC et PEFC. Mais aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'un quart des services n'utilisent pas de label. Donc, c'est là qu'en fait, on peut avoir une marge d'action, parce qu'effectivement, un quart des services, c'est quand même assez conséquent. Ensuite, on va enchaîner avec le type d'impression. Ce qu'on voit, c'est que la grande majorité, donc 16 services, utilisent de l'impression numérique. Donc, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impression offset, c'est une impression rotative qui se fait avec des plaques de cuivre. Et c'est une impression qui est quand même très gourmande, non seulement en électricité, mais aussi en coule, en non, pardon. Parce qu'en fait, du coup, on aura 4 passages, chaque passage pour une couleur. Et entre les passages, on va devoir nettoyer toute la machine avec de l'eau. Et du coup, non seulement ça pose un problème d'exploitation de minerais, parce que du coup, une plaque de cuivre n'est souvent pas recyclée et on les jette. Et c'est pour ça que, enfin, ou bien très difficilement recyclée. Et c'est pour ça que l'impression offset coûte si cher. Et voilà, non seulement c'est les plaques qui posent problème, mais aussi le mode de nettoyage de la machine. Alors que chez le numérique, c'est plus comme une machine, comme une imprimante qu'on a chez nous. Il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de plaque, c'est plutôt une machine qui imprime voilà, page par page. Il n'y a pas de rotation. Donc, si vous vous en souvenez, on a dit que le tirage moyen était à 300 exemplaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que le numérique fait sens et que la plupart des services savent utiliser le mode d'impression qui coïncide avec le tirage moyen. Parce que, en fait, on estime que une impression offset est rentable non seulement en termes de coût, mais aussi en termes de coût environnemental, on va dire, à partir de 500 exemplaires. Ça peut changer, mais voilà, c'est à partir de 500, 600 exemplaires qu'on préconise l'offset. Et du coup, ce qu'on voit, c'est qu'avec un tirage moyen de 300 exemplaires, le numérique convient très bien. Après, donc, pour le type d'impression en termes de couleur, justement, c'est pour éviter, c'est pour savoir si la plupart des éditeurs utilisent ce passage à quatre passages à la fois pour chaque couleur, ou s'il y a deux passages, si on est en bichromie, ou s'il y a un seul passage, si on est en noir et blanc. C'était pour savoir ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a les deux. Donc, la plupart des services, donc 14 services, utilisent et noir et blanc en fonction des monochromies, mais aussi la quadrichromie, donc quadrichromie qui veut dire qu'il y a quatre passages. C'est rare d'avoir soit le noir et blanc, soit la quadrichromie, donc ça veut dire qu'en fait, les services peuvent choisir en fonction de leur projet éditorial si ça fait sens d'utiliser plutôt le noir et blanc ou des couleurs. Et pour le type de couleur, c'est important aussi parce qu'en fait, en fonction de la marque, on ne va pas avoir les mêmes, comment dire, les mêmes composantes dans une encre. C'est important aussi de le savoir. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise les encres de quadrichromie, donc ça fait sens avec les résultats de type d'impression en termes de couleur. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un service qui utilise Pantone. Et en fait, pourquoi Pantone? En fait, souvent, dans les encres Pantone, on a une majorité d'encre minérale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux types d'encre. Il y a des encres à base minérale et à base végétale. Et celles qui sont à base végétale sont beaucoup moins néfastes pour la nature et sont plus facilement dissoutes dans la nature, alors que quand on a des métaux, eh ben, ça va compliquer le rejet dans la nature ou aussi si le livre finit dans la nature ou l'utilisation, même pour les lecteurs qui sont en contact avec ces encres au toucher du livre, c'est un peu plus problématique. Donc voilà, c'était pour savoir si dans l'édition scientifique publique, il y avait une grande utilisation des encres Pantone et je vois que non, donc c'est très bien aussi. Là aussi, je me permets parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a dit que les encres Pantone, vu que ça se décline en code, permettait de mieux gérer les rendus visuels, mais aussi les déclinaisons en termes de couleurs. Maintenant, avec les avancées techniques, on voit que c'est plutôt faux. Enfin, c'est pas faux, mais c'est plus le cas parce que du coup, avec d'autres encres, avec d'autres marques, on est maintenant capable de décliner très efficacement les couleurs et les nuances aussi. Donc voilà, on peut éviter d'utiliser de Pantone maintenant. Une autre grande question, c'était celle des marchés publics, parce que de toute façon, comme vous le savez, la plupart des services éditoriaux publics sont gérés par des marchés publics pour surtout l'impression. Et du coup, ce que je vois ici, c'est que une grande majorité, encore une fois, 14 sur 24 services utilisent, enfin, ont inclus des critères éco-responsables dans leur marché public. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même 5 services qui ne savent pas ou qui ne répondent pas à cette question. Donc là, la nuance entre les deux, moi, je n'ai pas voulu mettre juste je ne sais pas comme réponse, parce qu'en fait, ça montre aussi que l'information ne circule peut-être pas au sein d'un seul service, ou tous les composants d'un service ne sont pas au courant de comment les marchés publics fonctionnent et quels sont les critères qui sont inclus dedans. Donc, pour moi, c'est important de voir que quand même presque un quart, voire un peu plus, des répondants ne connaissent pas très bien le marché public. Mais ce qui est bien, c'est que tous les services, donc 24 sur 24, impriment en France. Voilà, il n'y a pas d'impression à l'étranger. Comme je disais pour le papier pelliculé, on va continuer avec le blister. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la grande majorité, donc 15 services, n'utilisent pas de blister contre 10. C'est quand même une belle disparité. Ce qui peut vous étonner ici, c'est qu'on a 25 réponses et pas 24, parce qu'en fait, il y a un service qui utilise les deux à la fois. Donc, moi, je n'ai pas voulu mettre catégoriquement oui ou non. Donc, on voit qu'un service peut choisir de l'utiliser ou non en fonction de sa production, en fonction de son projet éditorial. Donc, si je me répète encore une fois, pourquoi pas blister? Parce que du coup, c'est encore une couche de plastique qu'on peut éviter. Mais pourquoi blister? Mais c'est parce que aussi, ça solidifie, ça protège et ça peut éventuellement réduire votre taux de retour. Donc, encore une fois, en fait, dans l'écologie des livres, il n'y a pas du noir et blanc, c'est toujours des questions à poser en fonction de vos productions, en fonction de vos projets éditoriaux. Si, par exemple, le format du livre, le grammage du papier utilisé sont susceptibles de donner un livre fragile, le blister peut être une bonne idée. Mais si le livre est déjà assez solide, avec un dos assez épais, avec un papier assez lourd, avec un format plutôt robuste, donc du grand format, on va dire entre 16 fois 24 cm, ce n'est peut-être pas la peine d'utiliser le blister, par exemple. Ensuite, donc pour les taux de retour de pilon de réintégration, on va commencer tout doucement avec le taux de retour. Ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, 8 services n'ont pas de données. Donc, ils ne savent pas comment les livres finissent chez les libraires, chez le distributeur aussi, notamment. Et aussi, 7 services donc n'ont pas su me donner un pourcentage. Donc, c'est un peu synonyme de je ne sais pas. Donc, ce qui montre que soit les services ne se posent pas de questions pour l'instant sur le taux de retour, soit le distributeur utilisé n'est pas capable de donner ces chiffres-là. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que les deux cas étaient tout à fait possibles. Par exemple, pour vous donner une idée, je sais que MSH Distribution, du coup, ne communique pas pour l'instant ce genre de données. Ils n'ont pas de données sur les retours ni sur le pilon, par exemple. Et ça va expliquer, par exemple, les quatre, je ne sais pas, du taux de pilon, pardon. Donc, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est que d'un côté, c'est à l'éditeur de solliciter son distributeur pour avoir accès à ce genre de données, mais aussi c'est au distributeur de rendre disponible ce genre de données sans que l'éditeur vienne les réclamer. Donc voilà, là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'actions à mettre en place pour justement avoir ce genre de retour. Pourquoi c'est important? C'est important pour non seulement mieux comprendre notre tirage, mais aussi mieux comprendre notre ligne éditoriale. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est parce que les livres étaient abîmés? Est-ce que c'est parce que... Voilà, parce que du coup, encore une fois, on va avec le taux de livres abîmés, c'est que 9 services sur 24 n'ont pas de chiffres disponibles. Donc en fait, ce qu'on voit ici pour le taux de retour, le taux de pilon et le taux de livres abîmés, on n'a pas de données. Idem pour le taux de réintégration. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que les éditeurs demandent à leurs distributeurs, mais les distributeurs doivent faire un travail là-dessus aussi. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on voit pour le pilon, c'est que 13 services sur 24 ne font pas de pilon. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, parce que du coup, qu'est-ce que c'est que le pilon? C'est en fait, avec les coûts de stockage, l'éditeur ne peut pas stocker sa production au bout d'un certain moment. Et du coup, il va les pilonner. Donc, c'est plutôt les cinérer ou recycler, même si voilà, il y a beaucoup de tableaux et il n'y a pas beaucoup de données disponibles là-dessus. On ne sait pas combien de livres finissent par être brûlés et combien finissent par être recyclés. Voilà. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions concernant ces données-là? Est-ce que tout était clair?
Oui, tout était clair de mon côté et c'est très intéressant. Merci.
Parfait. Donc voilà, ce qu'on voit ici, c'était les données purement techniques, purement concrètes. Donc il n'y avait rien d'individuel, d'idéologique ou de symbolique ou de social. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans l'association pour l'écologie du livre, on a tendance à voir l'écologie sous trois aspects. Donc on aura l'écologie matérielle, l'écologie sociale et l'écologie symbolique. Et moi, vu que ces données pour l'édition scientifique publique n'étaient pas disponibles, je me suis concentrée sur l'écologie matérielle, donc sur tout ce qui est la production et sur tout ce qui est industriel, entre guillemets. Et du coup, dans un deuxième temps, je me suis dit, OK, on a ces données-là, on sait comment les éditeurs scientifiques publics fonctionnent, mais je ne sais pas comment ils fonctionnent, enfin, quelles sont les interrogations qui les animent, quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés, quels sont leurs vécus dans leur service. Comment ils font avec leurs collègues, comment ils font dans leur vie privée, est-ce qu'il y a du négationnisme, Est-ce qu'il y a du pessimisme? Voilà. Parce que, en fait, je voulais aussi ouvrir un petit peu la porte sur l'écologie symbolique et sociale, même si ce n'était pas du tout le propos principal de mon mémoire, ni de ce webinaire. Mais bon, on va faire très rapidement. Du coup, j'ai fait des entretiens individuels avec des éditeurs scientifiques publics. Il y avait 12 questions. Et il y a eu une période de prise de contact entre le 6 mars et le 6 juin. Et il y a eu, sur 20 personnes sollicitées, 12 participants. Et la durée moyenne, c'était de 30 minutes, même si parfois c'était des entretiens de 1 heure et demie, et parfois c'était des entretiens de 5 minutes. Encore une fois, je vous mets les questions très rapidement. Qu'est-ce qu'on voit? C'est d'une part, effectivement, j'ai essayé de voir s'il y avait du négationnisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des éditeurs scientifiques publics qui ne croient toujours pas au changement climatique? Donc, la réponse, c'est non. Donc, c'est très bien. Tous les éditeurs scientifiques publics que j'ai interviewés sont conscients de ces enjeux. Est-ce qu'ils se sentent pessimistes? Est-ce qu'il y a des réflexions qu'ils veulent mettre en place dans leur service? Quelles sont les difficultés? Est-ce qu'ils se sentent inclus vis-à-vis de l'édition privée? Voilà. Tout ce genre de questions. Et du coup, effectivement, vu que j'ai envie d'avoir un bon temps de discussion, je passe très vite aux conclusions. Mais comme je vous ai dit, vous aurez de toute façon les questions. Qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce qu'on voit, c'est que tous les interviewés ont déjà mis en place des pratiques éco-responsables, à la fois dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de rupture entre leur vie privée et leur vie professionnelle, ce qui est très bien. Donc, parmi les 17 pratiques qui ont été mentionnées pour cette question, parmi lesquelles il y a eu l'organisation des braderies, sélection plus attentive des matières premières, donc notamment pour le papier, la pâte à bois, le bois. Chaque participant en pratique au moins 3 parmi les 17 pratiques. Il y a eu une grande concentration pour la réduction du tirage. Donc, la plupart des interviewés posent des questions sur le tirage, sur l'impression, donc l'impression en France ou à l'étranger, mais aussi beaucoup d'actions pour l'installation des poubelles et des ampoules LED. Et ça, c'était une grande majorité. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, la plupart des interviewés faisaient déjà un effort pour aller vers une chaîne durable, mais ça concernait plutôt leur vie bureautique. Donc, par exemple, ils éteignent leur ordinateur, ils ne mettent pas la clim, ils ferment les rideaux, ils ferment les volets, ou ils font du tri sélectif, où ils ont des ampoules LED, ils mettent pas le chauffage, ce genre de choses. Et en fait, ce que je vois, c'est que leur production éditoriale vient dans un second temps. Ils vont d'abord penser à leur consommation en tant qu'employé, entre guillemets, et c'est dans un deuxième temps que l'édition intervient à proprement parler, donc avec la réduction de tirage, l'impression, le papier, le blister, tout ça. Donc c'est très intéressant à voir que la grande concentration pour les pratiques éco-responsables et pour le bureautique. Ce qui est aussi étonnant, c'est qu'en fait, parmi les pratiques qui ont été mentionnées, donc les 17 pratiques, le papier certifié, l'utilisation du papier certifié n'est pas mentionnée. Et pourtant, tous les services, parce que du coup, en fait, les interviewés faisaient partie des services qui ont déjà répondu à mon sondage, et tous ces services utilisaient du papier labellisé. Et je ne sais pas si c'est une omission ou c'est parce qu'ils accordent pas beaucoup d'attention, voilà, mais effectivement, c'est une donnée qui m'a un petit peu étonnée. Et du coup, quand je leur demandais quelles étaient les pratiques qu'ils voudraient mettre en place, mais enfin, ce n'était pas le cas pour l'instant, c'était en fait l'utilisation du papier recyclé. La plupart des interviewés se posaient des questions sur l'efficacité du papier recyclé, sur sa performance visuelle. Ils se demandaient si le papier recyclé était toujours moche, entre guillemets, hein, je caricature un petit peu, mais voilà, si le papier recyclé était performant en termes de transparence, en termes de beauté visuelle, on va dire, parce qu'effectivement, pour eux, le papier recyclé restait toujours gris. Voilà. Alors que maintenant, des papiers recyclés très blanchis aussi. Et donc, on voit que les préjugés ou les idées préconçues qu'on avait perdurent un petit peu. Une autre pratique qu'ils ont mentionnée pour aller plus loin, c'était aussi la discussion avec l'imprimeur. Parce qu'en fait, la plupart des interviewés me disaient qu'ils souhaitaient discuter avec l'imprimeur, notamment pour le papier, mais aussi pour le mode d'impression, le format, mais que c'était pour l'instant difficile. Justement pour le traçage du papier, mais aussi, voilà, enfin, parce que du coup, on va voir tout de suite que la plupart des services n'arrivent pas à entamer des discussions avec l'imprimeur à cause des marchés publics. Parce qu'en fait, la plupart du temps, la réponse à ma question de quelles sont vos contraintes, c'était plutôt le marché public. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, le marché public a ses principes, comme par exemple l'égalité des traitements de données, mais aussi l'égalité à l'accès de la commande publique, qui complique un petit peu l'intégration de certains critères éco-responsables dans les marchés publics. Parce que effectivement, on ne peut pas mettre tous les critères comme on voudrait. Et ça, parfois, ça contraint quand même les éditeurs à se retrouver dans des productions qui ne correspondent plus à ce que eux, ils aimeraient mettre en place. Mais aussi parce que la plupart du temps, les marchés publics sont pour 4 ans. Je crois que c'est entre 4 et 8 ans. Et du coup, entre-temps, par exemple, on peut vouloir changer nos pratiques concrètes. Donc, par exemple, utiliser un autre papier, utiliser un autre format, utiliser un autre type d'impression. Et en fait, quand on est dans un marché qui dure pendant 4 ans, on ne peut pas tellement changer nos pratiques. Et du coup, l'imprimeur qui a été choisi dans le cadre de marché public ne peut répondre à certaines exigences techniques qu'on peut avoir si on change de pratique éditoriale. Et aussi, c'est parce que, en fait, les marchés publics ralentissent beaucoup la mise en place des actions et créent aussi une certaine incompréhension entre, justement, les services de marché public qui choisissent les imprimeurs et les services éditoriaux qui finissent par travailler avec des éditeurs qui ne choisissent pas au final. Est-ce que pour les entretiens que j'ai passés très rapidement, il y a des questions ou je passe tout de suite à la comparaison entre l'édition scientifique publique et l'édition privée?
Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, très
Oui,
bien.
ok. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, c'est très intéressant. Moi,
Oui.
j'avais une question sur le papier recyclé, parce
Oui.
que j'ai entendu plusieurs choses parfois contradictoires dessus. Donc vous dites que c'est quand même avantageux écologiquement d'utiliser du papier recyclé pour l'impression de d'ouvrages.
Alors non. Oui et non. La question de papier recyclé est très complexe parce qu'en fait, pour l'instant, la France ne possède pas d'usine de recyclage de papier. Donc ça veut dire que ça va être ailleurs, déplacé. Et c'est souvent dans des pays défavorisés qu'on recycle le papier. Donc ça va être plutôt au Moyen-Orient, en Asie. Et du coup, ça va produire aussi des transports en plus pour le papier qui va être acheminé déjà depuis l'Europe jusqu'à ces pays-là et depuis ces pays jusqu'en Europe. Après, donc si vous pouvez trouver du papier recyclé qui a été fabriqué en France, pourquoi pas? Mais encore une fois, il faut savoir que le papier recyclé n'est pas du tout la solution à tous nos problèmes, à sachant que le papier recyclé n'est pas entièrement recyclé non plus, parce que du coup, il est très fragile s'il est entièrement. Et du coup, il y aura toujours un petit pourcentage du papier vierge. Et en fait, même avec ce petit pourcentage de papier vierge, on ne peut pas utiliser le papier recyclé au bout de 5 fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même si à court terme, on utilise du papier recyclé français, ça nous aide, in fine, ce ne sera pas la solution la plus efficace.
Alors,
Par
c'est ça
exemple.
parce que moi, un imprimeur m'avait dit que en fait, le papier recyclé, pour de l'imprimer comme ça d'ouvrage, vu que les fibres étaient travaillées, elles avaient tendance à être plus courtes et qu'elles étaient aussi du coup plus fragiles et que donc ça pose ce que vous souleviez comme problème de taux de retour, voilà, de solidité des livres.
Tout à fait. Donc, un papier qui a été recyclé une fois, il sera plus ou moins performant. Hein. Donc, ça, vous pouvez. Mais effectivement, comme je vous disais, de toute façon, dans tous les papiers recyclés, il y a quand même un pourcentage de papier vierge. Parce que, comme vous dites, sinon, c'est pas utilisable, c'est pas viable. Et du coup, ça montre que, donc, d'où viennent ces matières premières, entre guillemets, donc le papier utilisé et le papier vierge Donc la plupart du temps, ça vient pas du même endroit non plus. Donc là, ça pose une fois les questions de transport. Et quand vous dites, effectivement, c'est parfois fragile, mais pour ça, il faut quand même recycler 5 fois, donc on est loin. Mais voilà, moi, je le mets comme option parce que du coup, de plus en plus, il y a des producteurs de papier recyclé français. Pour tout ce qui est, par exemple, des objets de communication, pour les tracts, le flyer, comment dire, les marque-pages, les catalogues qu'on imprime, pourquoi pas, hein. Pour ça, en soi, c'est une bonne idée. Mais pour tout ce qui est l'utilisation pour les monographies, les revues, effectivement, je préconise peut-être pas à 100%, même si peut-être, par exemple, pour les couvertures, vous pouvez. Vous
Et
voyez?
ouais. Bah nous justement on l'a utilisé pour notre couverture et on a constaté une certaine, enfin ça s'effrite très vite, c'est beaucoup plus fragile et donc un imprimeur nous a dit que c'était à cause de ça parce que c'était recyclé.
Oui, c'est très possible.
Ok. Ok,
Voilà, mais
merci.
je vous en prie. Mais encore une fois, aussi le papier recyclé, comme le papier vierge, il pose la question de blanchiment. Enfin, est-ce qu'on blanchit à 100% ou pas? Voilà, mais en tout cas, si je me permets de revenir tout au début, si vous voyez ici le papier déchaîné, donc vous pouvez très bien demander cette gazette gratuitement à vos organismes régionaux, donc la HAL, la DRAC, ça, ils en ont. Et en fait, il est en papier recyclé. Et
D'accord.
nous, par exemple, on n'a pas eu de souci là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, moi, je peux essayer de trouver la marque du papier qu'on a utilisé. Mais c'est vrai qu'il était quand même assez robuste. Et il n'était pas 100% blanchi non plus. Et le rendu était plus ou moins satisfaisant. Voilà.
Ok, ouais, bah j'irai regarder alors maintenant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les
Excusez-moi.
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, j'ai une question par rapport justement par rapport aux discussions qu'il y a pu avoir avec les imprimeurs, est-ce qu'il y a eu une réflexion sur le transport lors des livraisons de titres, des ouvrages?
Dans les entretiens que j'ai pu réaliser ou de mon côté?
Ben, de manière générale, est-ce qu'il y a eu dans cette enquête une réflexion autour du transport entre de l'imprimeur jusqu'à l'éditeur ou le distributeur?
Alors, pas de mon côté, effectivement, ça ne faisait pas partie de mes questions, mais la seule question qui peut le concerner, c'était justement la proximité entre le service éditorial et l'imprimeur. Et donc, on a vu que c'était plus ou moins régional la plupart du temps. Mais à part ça, effectivement, pour le mode de transport, pas tant que ça. Mais je sais que parmi les répondants, il y avait des services qui travaillaient avec des imprimeurs qui livraient en vélo. Ça, j'ai eu.
Oui,
Mais aussi,
ça nous arrive.
voilà, aussi, mais aussi des camions électriques, je crois. Voilà.
D'accord.
Mais oui, effectivement, ça,
Ok,
c'est une
oui,
question que je n'ai
pour
pas explorée.
l'instant, pas plus.
Non.
D'accord. Merci.
Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les imprimeurs, la plupart du temps, la livraison se fait en plusieurs temps. Enfin, je veux dire, quand il y a une livraison qui se fait, l'imprimeur va essayer de caser plusieurs éditeurs qui occupent le même secteur pour économiser. Donc, pour ça, quand moi, parce qu'en fait, j'ai interviewé aussi 3 imprimeurs. Et il me disait que pour le transport, la plupart du temps, vu qu'ils essayent de livrer les éditeurs du même secteur, la question, se pose même pas. Enfin, l'impact est plutôt minime.
D'accord. Ok, merci.
Je vous en prie. Ok, donc je poursuis. Petite comparaison entre l'édition privée et l'édition publique. Pourquoi? Ça peut vous sembler un peu naïf, mais en fait, mon idée de départ, c'était parce que du coup, moi, j'ai eu l'occasion de travailler à la fois dans l'édition scientifique publique et à la fois dans l'édition privée. Et moi, je voyais que les productions, mon ressenti, c'était que les productions se ressemblaient beaucoup et les enjeux aussi, les questions idem, mais je ne voyais pas de discussion entre les deux. Et du coup, la plupart du temps, quand je posais la question à mes collègues, que ce soit de l'édition privée ou de l'édition publique, on me disait, c'est parce qu'on est trop différents et qu'on fonctionne absolument pas de la même façon. Et moi, je disais, OK, d'accord, ça, c'est la bonne conclusion à en tirer. Et du coup, j'ai voulu voir si c'était vrai ou pas. Et du coup, pour ça, j'ai voulu faire une petite comparaison sur l'aspect technique. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et en fonction de la réponse, je voulais justement prouver à mes collègues que c'était faux ou pas. Donc c'est comme ça que moi, j'ai eu cette idée. Petite introduction, donc l'édition privée ou l'édition française de manière générale, c'est un oligopole à franges. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un secteur commercial dont la majorité de CA est partagée entre très peu d'acteurs économiques. Et le reste, donc le tout petit reste, est partagé entre une myriade d'acteurs économiques. Ça s'appelle un oligopole à franges. Et c'est le cas de l'édition française parce que 87% du CA sont assumés par 10 entreprises. Et quand je dis 10 entreprises, c'est 4 groupes. Donc si on regarde, on va retrouver Hachette, Editis, Média Participation, Madrigal, mais aussi Albin Michel dans les moyens. Voilà. À chaque fois, je vous mets les sources entre parenthèses parce que tout à la fin, vous allez avoir toute ma bibliographie de mon mémoire. Donc vous pouvez aller voir les sources. Donc, c'est pour ça que c'est un oligopole à franges. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les 13% sont partagés à la fois entre l'édition scientifique publique et l'édition indépendante. Et dans ces 13%, l'édition scientifique publique occupe 2900% pour le CA. Voilà. C'est important pour se rendre compte des échelles et des problématiques d'échelle. En 2024, en France, on recense plutôt 10 000 entités éditoriales, dont la moitié publie au moins un titre par an. Donc, on n'a pas du tout les mêmes productions, parce que pourquoi, dans ces chiffres, on a notamment les éditeurs qui publient à compte d'auteur, par exemple, ou des auteurs qui s'auto-publient aussi. Donc, voilà, mais en France, entre guillemets, on en a 10 000. Donc, dans ces 10 000, il y a 1 500 éditeurs indépendants, selon la FIL, et sans structure d'édition scientifique publique. Encore une fois, c'est une question d'échelle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Le reste, c'est plutôt dans les mains des grands groupes. Donc, il ne faut pas que ça nous décourage. Il ne faut pas qu'on se dise que notre production éditoriale n'aura pas d'impact environnemental. Parce que du coup, mine de rien, c'est toujours bien et c'est peut-être par le bas que ça va commencer aussi. Mais effectivement, on fait à notre échelle, c'est important. Mais il faut pas oublier que, effectivement, peut-être en ne pas soutenant les grands groupes aussi en tant que lecteurs et lectrices, on fait aussi un petit effort. Donc, selon les données de la FIL qu'on va voir ici, on va voir que, en fait, quand on compare l'édition scientifique publique avec l'édition privée, on pense plus à l'édition indépendante, parce que de toute façon, si on pensait aux grands groupes, aux quatre, du coup Madrigal, Média Participation, Editis, Hachette, on aura des productions très conséquentes qui ne résonnent pas très bien avec l'édition scientifique publique. Donc ce qu'on voit, c'est que, par exemple, selon la plupart des recherches, pour la production annuelle, l'édition scientifique publique et l'édition indépendante ont les mêmes productions, à peu près. Donc là, on ne parle pas en termes d'éditeurs, mais au total. Donc l'édition indépendante produit 1 900 titres à l'année et l'édition scientifique publique 1 500. Voilà. Pour le tirage moyen, on est à 507 exemplaires pour l'édition scientifique, même si dans mon sondage, on est plutôt à 300. Pour l'édition indépendante, on est plutôt à 1 150 exemplaires. Donc là aussi, effectivement, ça double, mais pour des raisons enfin, pour des raisons commerciales plus ou moins, j'imagine. Enfin, parce que du coup, pour l'édition indépendante, on aura toutes les problématiques de nouveautés, inonder le marché, être présent dans des librairies, etc. Donc, pour le papier, là, il y a une erreur. Donc, je le corrigerai tout de suite. C'est pas le papier recyclé, mais c'est le papier labellisé. Donc, attention, c'est le papier labellisé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 68% des éditeurs indépendants utilisent le papier labellisé. Et pour l'édition scientifique, ça, c'est une donnée qui vient de mon sondage, on est à 75%. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pour l'édition scientifique publique est beaucoup plus consciente des problématiques de papier labellisé que les éditeurs indépendants, par exemple. Pour le taux de retour, encore une fois, selon mon sondage, on est dans des retours plutôt marginaux, même si on n'a pas de pourcentage précis, mais on sera plutôt entre 5 et 10% selon mes estimations, alors que pour l'édition indépendante, on est plutôt à 20%. Là encore, une petite précision, parce que du coup, ça, c'est les données du SNE, et probablement ce taux très élevé de retour est issue des grands groupes. Donc, je ne sais pas si dans les chiffres de SNE, on se rend compte des nuances de l'édition indépendante. Voilà. Mais en tout cas, c'est le double, voire, enfin, je ne sais pas comment dire, mais dans l'édition scientifique publique, il n'y a presque pas de retour, quoi. Donc, 20%, on n'y est absolument pas. Et pour l'impression, l'édition scientifique publique est toujours en avance avec une impression 100% en France, alors que pour l'édition indépendante et aussi pour l'édition privée tout court, pour les grands groupes aussi, c'est 56% en France selon les données de l'ABNF. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que effectivement, on peut avoir des discussions entre l'édition scientifique publique et l'édition indépendante. Peut-être que les éditeurs scientifiques publics, pardon, ont des choses à apprendre aux éditeurs indépendants, notamment pour la gestion des retours, la gestion de bilan, mais aussi pour l'impression, pour l'importance des labels. Et c'est là que, en fait, je vous donne la responsabilité et de dire que allez voir les éditeurs indépendants et dites-leur vos pratiques, en fait, parce que du coup, pour certaines de ces pratiques, vous êtes beaucoup plus avancés qu'eux. Donc voilà, c'est pour montrer que d'une part, les productions sont relativement similaires, mais aussi les éditeurs indépendants ont beaucoup de choses à gagner à parler avec vous. Donc après, ici, je vous ai mis les tirages. Ça, c'est, vous voyez dans le petit carré d'où ça vient, donc c'est encore la file. Et en fait, comme vous voyez, c'est en fonction des structures ABCD. Et en fait, la définition que eux, ils donnent, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc, je vous ai mis ici. Et ici, vous avez la répartition des éditeurs qui ont répondu à ce sondage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la majorité, ce sont des éditeurs D, dont le CA ne dépasse pas les 25K. Donc, on est là. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont uniquement des éditeurs indépendants et les structures D, dont le tirage moyen est de 500 exemplaires, ressemblent beaucoup aux éditeurs scientifiques publics, dont le tirage était de 500 exemplaires, selon Dendurand 2022. Donc, voilà, les productions sont quand même très similaires. Donc, qu'est-ce qu'on voit par contre? C'est que pour ces éditeurs, il y a quand même un grand problème de stock restant, qui est de 66%, qui est dû à une mise en place plus ou moins faible selon les autres, enfin en fonction comparée aux autres. Donc, c'est un peu le problème des éditeurs scientifiques publics aussi, parce qu'effectivement, il n'y a pas de pilon, mais moi, je sais que de mon vécu, il y a beaucoup d'éditeurs scientifiques publics qui stockent, qui stockent, qui stockent dans les espaces de stockage donnés par les universités souvent. Et en fait, ces stocks restent pour l'instant, mais on sait que d'ici quelques années, ces services éditoriaux vont devoir se poser des questions aussi. Est-ce qu'ils font des braderies? Est-ce qu'ils font du pilon? Est-ce qu'ils donnent? Est-ce qu'ils recyclent? Voilà. Donc moi aussi, j'estime que de mon vécu totalement personnel, que moi, j'ai pas réussi à quantifier parce qu'effectivement, j'ai pas posé la question du stock restant. Je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre les éditeurs indépendants et les éditeurs scientifiques publics, dont le stock restant est très conséquent, même s'il n'y a pas de pilon pour l'édition scientifique publique. Et là, énorme citation que je ne vous lis pas, ça vient de mon mémoire, mais en fait, ce que moi j'essaie de dire ici, c'est que l'acquisition du papier pour enfin, les enjeux du papier, les enjeux de la traçabilité de papier sont les mêmes pour les éditeurs scientifiques publics et les éditeurs indépendants. Pourquoi? En fait, pour pouvoir commander du papier, une marque, un grammage, couché ou non couché, toutes ces données, il faut commander au moins 3 tonnes. Si vous ne commandez pas 3 tonnes, l'imprimeur va vous proposer les papiers qu'il a en stock. Voilà, c'est souvent le cas des éditeurs scientifiques indépendants et les éditeurs scientifiques publics et les éditeurs indépendants qui vont dire, j'aimerais bien avoir un papier à 90 grammes par exemple, et c'est l'imprimeur qui va dire, j'ai ce papier-là. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que entre l'éditeur et le producteur de papier, il y a un intermédiaire qui est l'imprimeur. Et du coup, dans cette chaîne d'utilisation, on va perdre des informations. Ça veut dire que l'éditeur va dépendre de l'imprimeur pour avoir ce genre de données. Et l'imprimeur lui-même va dépendre d'un marché mondial qui brouille ces informations-là. Parce que du coup, si l'imprimeur n'a pas d'argent pour passer des immenses commandes, eh ben lui aussi, il va dépendre des lots mondiaux pour acheter ses papiers. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est que le 69% de l'ensemble du papier acheté en France se fait par l'intermédiaire de l'imprimeur. Ici, on voit les éditeurs scientifiques publics et les éditeurs indépendants. Donc, la grande majorité s'achète via l'imprimeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut qu'on sensibilise aussi nos imprimeurs, les imprimeurs avec qui on travaille, à ce genre de sujet aussi. Il faut qu'on pousse les imprimeurs à avoir ce genre de responsabilité, aller voir leurs fournisseurs de papier pour leur poser ce genre de questions. Ça existe, ça c'est sûr. Donc, il y a un travail à faire de deux côtés. Et du coup, cela veut dire aussi que les grands groupes et les groupes de moyenne taille, on va dire, ont ce genre d'informations parce que eux, ils achètent leur papier directement chez les fournisseurs. Donc, ils peuvent très bien aller voir un fournisseur de papier en leur disant, pardon, je veux tel papier avec autant de bois européen, avec autant de bois de Sud-Amérique. Non. Et voilà. Et du coup, en fait, peut-être un collectif, je ne sais pas, mais voilà, c'est aussi une piste d'action pour mettre en commun nos actions à la fois du côté de l'édition scientifique publique et l'édition indépendante. Parce que du coup, si ces deux secteurs achetaient ensemble leur papier, par exemple, vous pouvez notamment passer par les fournisseurs, par exemple. Ça peut être vraiment très naïf, et voilà, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de problèmes pratiques aussi dans ça. Mais voilà, je vous donne juste des idées, et après, c'est à vous de voir. Et du coup, là, j'ai terminé ma comparaison qui était très brève aussi, mais c'était juste pour vous montrer que, voilà, les éditeurs scientifiques publics ont beaucoup de choses à apprendre aux éditeurs indépendants, dont la production reste très similaire de la production des éditeurs scientifiques publics. Et pour tout ce qui est la traçabilité du papier, brouillage des informations concernant la provenance du bois et de la pâte à papier, vous êtes confrontés aux mêmes problématiques. Vous êtes notamment confronté aux mêmes problématiques de la gestion du stock. La seule différence, c'est que les éditeurs indépendants préfèrent qu'il en ait tout de suite, parce que du coup, eux, ils ont une production quand même beaucoup plus rythmée par les rentrées littéraires, alors que les éditeurs scientifiques publics peuvent avoir la chance de les stocker plus longtemps. Mais là aussi, est-ce qu'il faudrait discuter ensemble pour trouver des outils de gestion de stock ou des solutions? Et du coup, là, on va passer aux pistes d'amélioration parce que du coup, en fait, un des objectifs de mon mémoire, c'est aussi de montrer ce qu'on peut préconiser aux services éditoriaux en fonction de leur production. Et du coup, moi, j'ai fait des préconisations en fonction de ce que nous, on essaye de mettre en place dans l'association pour l'écologie du livre. Ce n'est pas du tout des solutions toutes préparées. Il faut juste les voir comme des sources d'inspiration. Il faut juste aller piocher ce qui vous convient dans votre service à vous. Je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Je me permets juste d'aller voir. Ça, on verra plus tard. Mais encore une fois, si... Effectivement, juste remarque de Catherine Cuvilly qui dit que l'édition scientifique publique et entre les éditeurs scientifiques publics et éditeurs indépendants, il y a des problématiques économiques très différentes. Effectivement, c'est ce que j'essaie de dire. La production des éditeurs indépendants est beaucoup plus rythmée par les rentrées littéraires. Donc, ça veut dire qu'ils sont obligés de surproduire pour pouvoir cohabiter avec les grands groupes. Mais aussi, donc, ils sont beaucoup plus économiquement fragiles parce que du coup, ils ne dépendent pas de l'argent public. Et aussi, donc, ils ne peuvent pas forcément financer des stockages à long terme. Et du coup, il y a tout ça, effectivement. Mais en fait, ce qui est important à voir, c'est que l'objet livre en lui-même est quand même similaire Donc, vous tirez à peu près au même tirage, avec le même format, avec le même type d'impression, avec le même type de couleur, avec le même type de mise en page. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a des choses à faire. Mais aussi, comme je vous disais, effectivement, même si les questions de rentabilité ne sont absolument pas les mêmes, vous êtes confronté quand même aux mêmes problématiques, par exemple, pour l'acquisition de papier. Parce que du coup, si vous n'êtes pas un grand groupe, vous passez par l'imprimeur. C'est simple. Ou bien, si vous surproduisez et vous ne coulez pas votre stock, vous êtes confronté aux mêmes problématiques de gestion de stockage. Ça, c'est sûr. Même si, effectivement, il n'y a pas les mêmes questions de rentabilité derrière, c'est que, vous avez quand même beaucoup de similarités entre les productions. Voilà. Tout ça, de toute façon, on aura le temps d'en discuter. Je passe rapidement, aux pistes d'amélioration. Si jamais. Voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on veut voir pour ces pistes, c'est que j'ai essayé de faire des sous-parties. Donc, on aura la chaîne du livre, l'impression, le papier, tout ça, tout ça. Et du coup, moi, je vais passer très rapidement parce que, comme je vous disais, déjà, ce sera enregistré, mais aussi, vous aurez la présentation. Du coup, vous aurez le temps de lire tout doucement. Et du coup, en fait, pour la conception éditoriale, ce qu'il faut faire, c'est concevoir un projet éditorial qui privilégie une relation à l'échelle humaine avec d'autres acteurs du livre et qui sort des logiques de surconsommation, surdiffusion. Je sais que, par exemple, pour l'édition Science Fiction Publique, ce n'est pas du tout le cas. De toute façon, ce n'est pas les éditeurs Science Fiction Publique qui choisissent les projets, mais ça passe par un comité éditorial la plupart du temps. Il y a des peer reviews. C'est plutôt en fonction de l'actualité scientifique. Mais pourquoi pas tisser des liens avec des éditeurs, avec des libraires, par exemple. Enfin, tout ça, en fait, c'est des pistes. Donc, c'est à vous de voir si ça fait sens. Mais en fait, ce que j'essaie de dire ici, c'est que, effectivement, vous vous sentez exclu. Ça, c'était une des conclusions que j'ai pu tirer de mes entretiens. Et c'est peut-être à vous de vous inclure aussi dans cette chaîne du livre, parce que vous en faites entièrement partie. Donc, c'est peut-être à vous de voir les librairies en leur disant, bah voilà, bon, dans mon service, on publie ça. Ça peut être peut-être intéressant de faire une rencontre. Ça peut être intéressant peut-être de faire un partenariat pour pérenniser nos ventes chez vous. Et voilà. Pour la conception visuelle, ça sera beaucoup plus technique. Donc, je vais lire un peu plus doucement. D'abord, il faut donc privilégier le dialogue avec son imprimeur. Pour le format de papier, le type de papier, le grammage de papier, mais aussi pour diminuer les chutes, par exemple. Parce que, en fait, l'imprimeur, souvent, c'est la bonne personne pour lui demander des conseils en disant, bah voilà, par exemple, on veut imprimer une monographie avec beaucoup d'images, des images de telle taille, avec autant de textes. Qu'est-ce que vous préconisez? Quel serait pour vous le format le plus idoine? Et là-dessus, effectivement, comme on disait, même si vous finissez avec un imprimeur que vous n'avez pas choisi parce qu'il sera choisi par un service de marché public, vous pouvez par la suite le contacter pour avoir des idées, même si effectivement, ça veut dire que vous n'aurez pas beaucoup de cohérence dans un catalogue. Mais là aussi, il faut se poser la question entre est-ce qu'on va vers une production beaucoup plus éco-responsable ou on garde la cohérence d'un catalogue? C'est à vous de voir. Moi, je donne absolument pas de réponse à cette question non plus. Mais aussi, ça peut être bien de discuter avec un imprimeur que vous allez garder entre 4 et 8 ans pour dire, bah voilà, là, on aimerait changer notre production éditoriale. On veut discuter avec vous et en fonction de vos conclusions, vous pouvez aussi avoir un changement de charte graphique, tout simplement, par exemple. En plus de ça, vous pouvez notamment privilégier des typographies écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, de plus en plus, maintenant, il y a des typographies qui contiennent des zones blanches, qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui vont, comment dire, permettre d'économiser de l'encre. Voilà, ça existe. Vous pouvez juste taper des typographies écologiques et vous pouvez même le faire pour votre tracts, vos flyers. En fait, c'est à vous de le faire. Encore une fois, je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat, mais je ne peux pas voir. Donc, je vous propose de les voir tout à la fin. De toute façon, on a presque terminé. Ensuite, donc, vous pouvez privilégier une conception monochrome ou bichrome pour économiser de l'encre, mais aussi si vous faites de l'offset pour économiser des passages pour chaque couleur, c'est encore à vous de voir. Mais par exemple, comment dire, en bichromie, vous pouvez quand même avoir des rendus visuels très performants. C'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, bichrome ne veut pas dire je vais utiliser juste jaune et blanc, pardon, bleu. C'est toutes les déclinaisons de nuances entre les deux. Je sais que pour l'édition scientifique publique, c'est plus compliqué parce que la plupart du temps, les visuels ont une valeur scientifique et peut-être que ça peut fausser les valeurs scientifiques, mais c'est quand même une piste qu'on propose, par exemple, pour les éditeurs indépendants. Donc, c'est bien de l'avoir pour vous aussi dans un coin de votre tête. Par exemple, pour, encore une fois, les flyers, les catalogues, les couvertures, ce genre de choses. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est diminuer votre taux d'ancrage. Parce qu'en fait, c'est ce que j'essaie de vous présenter ici. Donc, encore une fois, vous pouvez revenir là-dessus. Pour le noir, donc par exemple pour le texte littéraire ou linéaire, vous n'avez pas besoin d'utiliser un taux d'ancrage à 100%. Vous pouvez très bien baisser jusqu'à 80%, c'est pas visible à l'œil nu, pourtant vous faites des économies. Et c'est toujours bien d'utiliser le moins d'âme possible, ne serait-ce que pour la nature ou pour les lecteurs qui vont être en contact avec l'encre. Et ici, par exemple, vous avez plusieurs propositions et vous voyez que la nuance entre tous ces ancrages sont quand même très minimes. Comme je disais, évitez les pantones, donc parce que ce sont des huiles avec des huiles minérales. Mais aussi peut-être éviter le pelliculage parce qu'effectivement là aussi c'est en fonction de ce que vous faites. Mais si par exemple vous utilisez et le blister et le pelliculage, là, peut-être, vous pouvez faire le choix d'enlever un des deux. Soit le pelliculage, soit le blister. Et comme je vous disais, si par exemple, vous avez un format très robuste, comme par exemple un grand format à 16 x 24 cm avec un dos épais, donc à peu près 300 pages, c'est peut-être pas la peine d'utiliser ni le pelliculage, ni le blister. Vous pouvez très bien utiliser juste un papier très épais, donc entre 300 et 350 grammes pour la couverture, pour éviter le pelliculage, par exemple. Maintenant, j'ai su qu'il y a des pelliculages qui seront avec du plastique biosourcé, avec d'amidon de végétal, donc de maïs, mais je ne sais pas combien ça coûte. Donc, je vous l'ai mis juste à titre informatif, mais j'ai aucune idée sur sa faisabilité. Pour le papier, donc on a dit encore une fois qu'il faut absolument parler avec son imprimeur pour avoir le plus d'informations possible. Encore une fois, si la première fois vous n'avez pas ces informations, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de montrer à l'imprimeur que ça vous intéresse et que vous avez envie de savoir. Rien que de leur montrer qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui posent ce genre de questions, ça va les pousser à réclamer ce genre d'informations auprès de leur fournisseur aussi. Vous pouvez aller voir les paper profiles des papiers qui vous sont proposés par l'imprimeur. Ça, c'est une information publique. Donc, vous pouvez tout simplement vous référer sur Internet pour trouver les paper profiles qui vont la plupart du temps vous donner des informations sur la pâte à bois et du bois aussi, leur provenance. Voilà, au-delà de la label FSC-PEFC qui vous garantissent uniquement la production de papier en fonction des lois nationales, vous pouvez aussi aller voir d'autres labels. Par exemple, je sais que Cradle ou Nordic Swan sont les meilleurs pour tout ce qui est respect des normes plutôt européennes pour l'instant. Comme je disais, privilégier des papiers plus légers, entre 80 et 90 grammes, surtout pour du texte littéraire ou du texte linéaire. Si, par exemple, vous n'avez pas de visuel, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des papiers très conséquents comme 100, 150, pardon, 100, 120, 110, même 90, ça peut être trop épais pour avoir du texte juste du noir et blanc. Comme je disais, utiliser du papier non couché pour éviter le plastique, utiliser un taux de blanchissement modéré, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est pas la peine d'utiliser un papier 100% blanchi non plus. Vous pouvez très bien arriver à 80-90% et ça sera déjà très bien. Le reste, je vous laisse découvrir parce que c'est vrai que du coup, ça dépend aussi beaucoup du budget des services. Parce que c'est vrai que les papiers français qui sont meilleurs, non seulement pour le respect des normes françaises qui sont beaucoup plus poussées que celles d'autres pays européens, justement comme la Bulgarie ou la Roumanie, c'est aussi bien pour éviter des transports. Mais c'est vrai que les papiers français coûtent beaucoup plus cher. Je ne sais pas si, par exemple, Quand vous demandez du budget, vous pouvez l'inclure dans votre argumentaire, alors que je sais que c'est pas du tout donné et que je sais que l'État essaye de couper le budget. Mais voilà, je vous l'ai mis juste à titre informatif, encore une fois. L'impression. Comme je vous disais, on veut passer à l'impression offset à partir de 500 exemplaires, voire 600, pour éviter la passe du calage. Donc, la passe du calage, en fait, pour chaque format, on va faire passer quelques exemplaires pour caler le livre. Donc, souvent, on imprime 5 ou 6 exemplaires pour la passe du calage, donc pour caler le livre dans l'imprimerie, enfin, pour imprimer un offset et pour le format, donc pour éviter tout ça, pour éviter le nettoyage et pour éviter l'utilisation de plaques de cuivre, faites de l'offset à partir de 500, 600 exemplaires. Comme vous le faites déjà, privilégiez des éditeurs français, privilégiez des éditeurs, pardon, des imprimeurs qui ont les normes ISO et des certificats comme imprimeur. C'est souvent maintenant démocratisé, donc c'est souvent le cas déjà. Et aussi, vous pouvez très bien demander à votre imprimeur ce qu'il fait de leurs déchets aussi, parce que par exemple, il y a aussi les flacons d'encre qui sont réutilisables ou qu'est-ce qu'ils font pour recycler leurs flacons d'encre? C'est aussi une bonne question aussi à leur poser pour les sensibiliser. Et aussi, vous pouvez notamment regrouper les commandes pour éviter de multiplier le transport, par exemple. Enfin, donc, pour la gestion de l'équipe, et en fait, la conclusion que j'ai tirée aussi des entretiens individuels, c'était que la plupart du temps, les éditeurs voulaient mettre en place des pratiques, monter en compétences, aller voir l'imprimeur, aller voir les fournisseurs de papier, aller voir d'autres éditeurs pour parler de ce genre de choses, mais en fait, ils n'avaient tout simplement pas le temps. Parce que, en fait, la plupart du temps, effectivement, on va parler des contraintes économiques ou administratives avec le marché public, mais c'est vrai que aussi, il y a les contraintes de ressources humaines. La plupart du temps, la réalité des services publics d'aujourd'hui, c'est souvent des services sous-effectifs, en tension, dont les postes sont de plus en plus supprimés, avec les départs à la retraite, les postes ne se renouvellent pas. Donc, c'est vrai que aussi, c'est bien d'avoir en tête l'idée de dégager du temps pour ça, pouvoir dégager du temps pour ça et de demander à vos chefs, à vos supérieurs hiérarchiques pour dire, voilà, je me dégage du temps pour me former, je me dégage du temps pour aller les voir, même si je sais que c'est pas le ressort des éditeurs pour tout ce genre d'action. Et enfin, comme je disais, pour la chaîne du livre dans sa globalité, avec les éditeurs indépendants et les librairies indépendantes, pourquoi pas fidéliser certains libraires et représentants pour faire des ventes, ouvrir un public qui est différent et partager des pratiques entre différents éditeurs de différents secteurs pour avoir des débats beaucoup plus riches et moins cloisonnés. Et ça serait tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai mis ici la bibliographie de mon mémoire. Donc, c'est toutes les études qui sont pour l'instant disponibles. Vous pouvez aller les voir. Et voilà. Donc, j'ai tenu le temps. On a un bon moment pour discuter de tout. Donc, là, je vais voir le chat. Certaines structures privées publient des collections publiques, CNRS éditions. Effectivement, par exemple, en fait, mon plus grand regret, c'était justement de ne pas pouvoir accueillir les données de CNRS éditions. Je les ai relancées 4 fois et je n'avais pas eu de réponse. Et du coup, ça aurait été très intéressant de voir quel était leur tirage, comment ils géraient leur stock, quelle était leur vente, ce genre de choses. Mais oui, effectivement, les frontières ne sont pas toujours très bien définies. Agnès Maquin, comme je disais, peut-être que vous n'étiez pas là encore, le mémoire n'est pas disponible pour l'instant, en ligne ni en open access. C'est un projet en cours. Je vais essayer de ne pas tarder à le mettre en disponibilité en ligne. Mais en fait, comme je disais au début de ce webinaire, c'est qu'il y a encore des choses à ajouter dans son mémoire. Ah, effectivement, ça a été répondu. Donc ça, j'ai dit. Qu'en est-il de l'impact écologique de l'open access? Cela me semble à discuter et correspondre. J'ai suivi. Même avec le point de... Excusez-moi, j'ai mis en même temps. Oui, donc encore une fois, comme je disais, moi je travaille uniquement sur le papier. Parce que c'est là qu'on a beaucoup plus de données, parce qu'en fait, le papier est au centre de nos interrogations depuis 2018. Voilà, c'est à ce moment-là que le SNE et l'Association pour l'écologie du livre ont commencé à mener leur enquête. Donc, pour ça, on a beaucoup d'enquêtes, on a beaucoup d'informations qui nous permettent de voir l'évolution de la chose sur un temps relativement long. Pour l'édition numérique, ce n'est pas encore le cas. Et puis moi, je n'ai tout simplement pas les compétences pour quantifier l'impact environnemental du numérique, parce que du coup, j'ai aucune idée de comment les serveurs fonctionnent, comment tout ça se réalise. Mais effectivement, la question va se poser de plus en plus, parce que justement, avec le succès de l'open access et la production qu'on met de plus en plus en ligne, la question très pertinente, j'espère avoir les données. Bientôt, enfin, il faut que ça vienne aussi du SNE, du CNL, de l'Association pour l'écologie du livre ou de l'Alliance des éditeurs scientifiques publics aussi, pourquoi pas, parce que vous êtes pour l'instant beaucoup plus concerné que les éditeurs privés, par exemple. Mais pour l'instant, il n'y a juste pas d'études, en fait. Du coup, je ne peux pas le savoir. Mais de mon côté, c'est que j'avais lu que rien qu'en réduisant. Je ne sais pas comment vous dire, mais par exemple, sur Car ou sur Open Access, Open Edition Books, pardon, on aura les visuels qui seront déjà affichés. Quand on va défiler sur une page Internet, on aura toutes les images qui sont déjà affichées. Et en fait, ça va consommer beaucoup plus d'énergie que si on les mettait en voilé, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des options informatiques qui vous permettent de voiler les images qui ne sont pas vues. Et pour les dévoiler, il faut juste cliquer ou amener le curseur dessus. Et ça va éviter que les images occupent beaucoup plus de place dans les serveurs. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une légende urbaine. Encore une fois, malheureusement, je ne suis pas du tout compétente pour répondre à la question de l'impact numérique, l'impact environnemental du numérique. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? C'est notre moment, c'est le moment de discuter de ce que vous avez pensé de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez un vécu que vous souhaitez partager? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû explorer? Voilà, c'est à vous maintenant. Stéphanie Fretz?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis à Genève, donc je suis un petit peu à l'extérieur, mais aussi dans des presses universitaires. Et j'ai une remarque ou une question par rapport au retour et au pilon. Parce qu'en fait, on essaye d'avoir une production au plus juste. Et donc, dans ce cas-là, bah, chaque unité, chaque livre compte. C'est un objet à valoriser. Et ben souvent, on se trouve confronté à des mises en place qui sont très importantes. Et du coup, on a beaucoup de retours. Et enfin, disons qu'il y a des retours. Et nous, on fournit des livres qui sont en bon état et on récupère des ouvrages qui sont parfois en mauvais état. Mais le prix de ce trajet nous incombe aussi. Et puis, en fait, ça coûte plus cher de récupérer les livres que de les pilonner. Et ça pose vraiment un problème écologique, éthique, enfin, sur le commerce et la production du livre.
Tout à fait.
Et quand on voit qu'on représente en France 2,5% les presses publiques, ben on se dit que dans l'économie du livre, on n'a pas beaucoup de poids pour faire changer les pratiques, en fait. À ce niveau-là.
Oui. Oui, c'est vrai que, encore une fois, c'est juste le CA. Mais effectivement, de toute façon, comme je vous disais, c'est pour répondre à votre remarque concernant le 2%, effectivement, c'est une question d'échelle. C'est évident que c'est aux grands groupes de faire un effort. Ils le font de petit à petit. Mais justement, je vous disais, là, il y a de leviers d'action. Donc, en tant que lecteur, lectrice, on peut éviter d'acheter leur bouquin. C'est ce que moi, je fais déjà. Je boycotte tout simplement. Je me renseigne sur toutes les maisons d'édition qui ont l'air d'être indépendantes mais qui se sont fait acheter récemment. Je les boycotte aussi. J'achète tout simplement pas parce que moi, j'ai pas envie de soutenir une production dont la valeur ne me correspond pas. Mais en plus de ça, encore une fois, plus on fait de notre côté en tant qu'éditeur et qu'éditrice, donc comme ça, en disant bah voilà, moi j'ai réduit ci, j'ai changé ci. On fait des webinaires, on fait des séminaires, on fait des assises aussi, des assemblées générales. Ça va aussi éveiller la conscience des éditeurs des grands groupes aussi. Parce que de toute façon, même l'État s'oriente vers une chaîne de livres beaucoup plus éco-responsable. Comme par exemple, là-dessus, je me permets de revenir sur la question de Hélène Collard. Parce que du coup, effectivement, à partir de 2026, les éditeurs de grands groupes seront obligés de donner des informations sur l'origine du papier qu'ils utilisent, par exemple. Et petit à petit, les éditeurs indépendants et les éditeurs scientifiques publics seront notamment concernés par cette obligation. Ça fonctionne avec toujours le chiffre d'affaires. Donc, c'est surtout pour l'instant les grands éditeurs. Mais voilà, donc l'État essaie de faire un effort là-dessus aussi. Et pour concernant les problématiques de la distribution-diffusion, en fait, je pense qu'en tant qu'éditeur et qu'éditrice, vous devez avoir un mot sur la mise en place. Donc, vous pouvez très bien dire, écoutez, ça nous paraît très irréaliste. Donc, on va essayer de baisser la mise en place parce qu'en fait, la mise en place n'est pas le synonyme de vente derrière. Donc, vous pouvez très bien dire, moi, je prends le risque de faire une mise en place modeste et de renvoyer plus tard, au lieu de dire, on va inonder juste les librairies qui vont plus, en plus le retourner dans un mauvais état. Parce qu'en fait, là aussi, c'est surtout, vu que ce sont des camions, des distributeurs, effectivement, parfois, ils font tout simplement pas attention à ce genre d'aspect de fragilité. Et moi, je sais que même si, par exemple, vous faites tous les efforts possibles, comme blister, pelliculage et tout, parfois, vous aurez des coups de cutter dans les colis. Et donc, voilà, c'est juste une conscience à avoir. Mais effectivement, vous avez raison de dire que ça coûte beaucoup plus cher de récupérer que de les pilonner. Et c'est pour ça que je pense que le pilon est si conséquent. 20%, c'est pas rien. En termes de tonnes, c'est plusieurs centaines de tonnes par an. Et parfois, il y a des titres qui n'ont même pas eu la chance d'aller dans des librairies qui se font pilonner quelques mois plus tard. Donc, parce que du coup, en moyenne, c'est 4 mois après la publication, le pilon. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire, mais rien que se sensibiliser à ce genre de problématique, c'est un bon début. Donc, qu'en est-il de la réglementation européenne sur les produits, exemple la déforestation? Ça, je ne sais pas. Effectivement, j'ai mal lu. Je pensais que vous parliez de l'obligation de dire des informations sur la traçabilité de bois. Je n'ai aucune idée. Mais effectivement, moi, ce que j'avais vu de toute façon de mon côté, et c'est ça qui touche à l'écologie symbolique, c'est qu'en fait, le livre est exempt de la plupart des obligations concernant l'environnement. Par exemple, c'est pour ça qu'on n'a pas le logo de recyclage derrière les livres non plus, parce qu'en fait, on estime qu'un livre ne peut pas être jeté dans la nature. Parce qu'en fait, pour avoir ce logo, il faut que l'objet soit susceptible d'être jeté dans la nature. Et vu que ce n'est pas le cas de livres aux yeux de l'État, eh ben, on ne peut pas mettre le logo de recyclage derrière les livres. Et aussi, par exemple, le livre est exemple de la plupart des obligations environnementales qui ont été soumises, par exemple, à d'autres produits, par exemple l'alimentation, les meubles aussi. Et voilà, là-dessus, en fait, c'est parce que les grands groupes, c'est aussi des grands lobbies qui ne font pas que de l'édition, mais aussi du militaire, des presses. voilà, de radio, de cinéma. Donc, c'est vrai que parfois de l'essence. Voilà. Exactement. Donc, pour être un peu moins ferme, vous pouvez très bien les acheter en seconde main ou prêter, pardon, dans une bibliothèque, les grands groupes. J'essaye pas de dire ne pas lire, enfin, ne pas lire ces auteurs, mais moi, en tout cas, j'essaye de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres vécus, d'autres questions?
J'aurais une petite question justement pour revenir aux distributeurs-diffuseurs. Alors, j'ai peut-être pas autant d'expérience là-dessus que d'autres, donc n'hésitez pas à me reprendre, mais j'ai l'impression que parfois, quand on est dans l'édition publique et que on passe du coup par ces, par ces billets-là, c'est pas toujours évident de pouvoir discuter directement avec la diffusion-distribution, de savoir où les livres vont être mis à disposition et distribués. Du coup, de ce point de vue-là, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience de votre part pour savoir bah, si vous en avez connaissance, si vous avez l'habitude de discuter avec des représentants, si globalement bah, vous savez comment cibler et est-ce que vous ciblez justement les endroits où les livres peuvent être acheminés et emmenés justement pour éviter ces allers-retours, des potentiels retours de livres qui sont assez néfastes pour l'environnement comme pour l'économie.
Merci beaucoup pour cette question. Peut-être avant ma réponse, s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre de leur côté, n'hésitez pas, hein, parce que là, c'est une question de vécu. Donc, s'il y a des gens, qui veulent partager, allez-y. Non? Ok. Et bah, comment cibler? Je viens tout juste de débuter aussi en tant qu'éditrice, enfin qu'assistante éditoriale dans l'édition scientifique publique aussi. Mais en fait, ce que moi j'ai vu de mon côté, c'était que la plupart du temps, on avait effectivement un représentant à qui on pitchait les nouveautés. Et à ce moment-là, c'est le représentant qui nous proposait des librairies avec qui on avait l'habitude de travailler. Donc en fait, ce qu'on faisait nous, la plupart du temps, c'était effectivement de cibler les librairies dont les rayons résonnaient avec notre production. Donc, c'est souvent des productions plus ou moins scientifiques. Donc, on aura des essais de l'histoire de l'art, l'archéologie ou l'histoire, ce genre de discipline. Et on disait aux représentants de pitcher auprès d'eux sans faire forcément tout le tour des librairies indépendants, par exemple. Mais après, effectivement, ce que moi, j'essaie de faire quand je vois un représentant, c'est que il contrôle l'accès on contrôle l'accès des représentants à nos livres, c'est vrai. On paye beaucoup pour ça. Par exemple, je sais que pour l'édition indépendante, c'est 70% de la recette. C'est la diffusion-distribution, en fait. Donc, le reste de la chaîne du livre en tire que très peu. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'estime qu'on a le droit d'exiger des choses aussi. Donc, c'est vrai que pour les grandes distributions de diffusion, ce n'est pas le cas parce que du coup, eux, ils ont un peu le monopole de tout ce qui se vend et tout ce qui se diffuse. Donc là, je parle de justement Madrigal, qui a maintenant sa propre diffusion-distribution, Hachette notamment, mais aussi Média Participation. Là, ce n'est pas notre cas, parce que du coup, dans l'édition scientifique publique, c'est plutôt Serendip, Delisco, FM, MSH, dont le nom m'échappe maintenant, ça y est. J'ai un trou de mémoire, mais vous avez compris. Et FSA, FMH, je sais plus. Voilà. Mais du coup, voilà, on va travailler. Oui, merci beaucoup, Serengeton. FMSH, diffusion. On travaille plus avec des diffusions, distributeurs spécialisés dans l'édition scientifique. Et je dis pas public, mais voilà, l'édition scientifique, parce que souvent dans leur catalogue, il y a aussi des éditeurs privés. Mais en fait, à ce moment-là, c'est à l'éditeur de faire un petit travail, de dire, bah voilà, je vais voir les libraires de mon quartier ou de ma ville, je vais voir ce qu'ils vendent, je vais voir peut-être chez eux en allant, en se rendant à leur librairie en disant, bah écoutez, moi je suis un éditeur, on vend ça, est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous suggérez? Peut-être que ces libraires aussi vont vous proposer d'aller dans une autre librairie. Et en fait, c'est comme ça qu'un tout un réseau se crée aussi. Donc, c'est un peu à vous de faire ce travail de, voilà, je vais essayer de me renseigner sur les librairies de ma ville et je vais leur proposer en leur faisant des mails ou en proposant à mon représentant de passer par ces libraires-là. Et c'est comme ça que ça va se jouer petit à petit. Moi, en tout cas, ce que j'avais vu quand j'étais à mon édition, comme stagiaire, et on n'a pas réussi à réaliser, c'était que en fonction des publications, il y avait des libraires qui étaient intéressés pour faire des rencontres. Donc là, par exemple, c'est une excellente porte d'entrée. Vous faites une rencontre dans une librairie indépendante, vous assurez déjà une dizaine de ventes, voire plus, en fonction du prix. Mais ça aussi permet de faire un réseau, de pérenniser un partenariat avec un librairie, avec une librairie pardon, indépendante, et de multiplier aussi votre chance d'être vendu. Voilà. Donc en fait, si je récapitule, parce que c'est allé un peu dans tous les sens, mais ce que je dirais, c'est l'éditeur fait un travail sur les librairies de sa ville ou de sa région pour voir qui vend quoi. Il demande à son représentant et sa représentante de les contacter ou les contacte tout seul ou tout seul. Il essaye de proposer des rencontres dans ces librairies-là. Et en voyant comment ces rencontres se passent et en voyant comment ces librairies réagissent en termes de retour ou de vente, pérennise ses partenariats. Voilà. Mais en fait, de toute façon, il faut toujours dire à son représentant, vous faites pas une grosse mise en place, enfin, ça tient pas la route. Et les représentants, ils le savent la plupart du temps. Si vous avez un représentant, une représentante qui inonde le marché en faisant une mise en place très conséquente, qui finit par avoir un taux de retour très conséquent, allez le voir. Voilà.
Si je peux me permettre,
Bien sûr.
donc moi j'ai travaillé pareil une dizaine d'années dans le privé avant de rejoindre le CNRS.
OK.
Et effectivement, la diffusion, distribution, c'est un grand chantier. Je travaillais dans le privé pour une petite maison d'édition qui n'existe plus, Maison Neuve-et-la-Rose. Et on avait effectivement des collections publiques avec des universités qu'on publiait. Donc, on ne peut pas vraiment discuter avec un diffuseur-distributeur, même si les rencontres avec les représentants se font. On présente l'ouvrage et c'est vraiment le représentant qui va dire cet ouvrage, il peut rejoindre ce canal de diffusion ou pas. Donc, alors, quand on publie, par exemple, ce qui était mon cas à l'époque, des actes de colloque, de ça, je peux vous dire que personne ne veut des actes de colloque. Déjà, on est dans les années 90. C'est encore plus maintenant. Donc là, la discussion, enfin, c'est illusoire de penser qu'on peut convaincre un représentant et lui dire, je veux telle librairie ou telle autre. Hein. Après, il y a le choix aussi du diffuseur. Aller, par exemple, chez Magriga ou Hachette, ce n'est pas la même chose qu'aller chez un distributeur ou un diffuseur comme Les Belles Lettres. Donc, il faut que le diffuseur-distributeur colle avec sa production. Et il faut qu'il accepte aussi. Hein. C'est toujours une histoire d'argent, en fait. Hein. C'est de chiffre d'affaires et c'est exactement la même chose aussi pour les mises en place. Pourquoi est-ce que... Oui, effectivement, les gros distributeurs veulent rarement travailler avec nous. Hein. Ça, je peux le certifier pour l'édition publique. Et c'est pour ça qu'il y a des réseaux comme bah, les réseaux des FMSH Diffusion, pour compenser justement. La mise en place, est-ce qu'un éditeur peut se permettre de dire je ne veux pas de mise en place automatique de mes ouvrages? Concrètement, non. Nous, on le faisait à Maison Neuve-et-la-Rose alors qu'on savait qu'on allait dans le mur, hein, que nos livres n'allaient pas se vendre. Hein.
Mais le fait d'avoir cette mise en place, c'est-à-dire qu'on envoie aux libraires, même s'ils n'ont pas demandé les ouvrages, permet de générer de la facturation. En fait, c'est un peu une course contre la montre, en fait. On place des livres pour pouvoir payer les livres suivants, enfin, et pour pouvoir payer les salariés. Enfin, ça, c'est. Voilà, en gros.
Merci beaucoup pour cette contribution. C'est vrai qu'effectivement, les grands organismes de diffusion distributeurs, c'est vraiment les vampires, hein. Moi, je les vois comme ça un peu du secteur parce que du coup, par exemple, rien que si je donne un exemple de notre association pour l'écologie du livre, ils sont presque les seuls qu'on n'arrive pas à atteindre. Ils sont les seuls à ne pas vouloir participer aux discussions. On n'a que très peu de distributeurs, diffuseurs et de représentants dans cette association, et rien que leur minorité montre quelque chose, je pense. Je sais que maintenant, il y a beaucoup d'efforts qu'on essaie de mettre en place chez Harmonia Mundi, parce que du coup, on a quelques représentants qui adhèrent à l'association et on les harcèle avec ça, entre guillemets. Mais effectivement, comme vous dites, hein, c'est des logiques de rentabilité. Effectivement, je ne sais pas si un éditeur indépendant peut se permettre de refuser une grosse mise en place. Peut-être que oui, parce que du coup, derrière, quand il y a des retours, c'est lui qui paye aussi. C'est aussi une
Oui.
question de réseau. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de dire, de toute façon, là, quand il y a une mise en place, c'est qu'il y a une commande derrière, c'est que le libraire a commandé. Et du coup, ce que nous, on essaie de faire, par exemple, auprès des libraires, c'est de leur dire que il faut pas commander 10 exemplaires si vous n'êtes pas sûr de les vendre. Enfin, c'est tout bête à dire comme ça, mais il y a beaucoup de libraires qui fonctionne absolument pas comme ça non plus. Donc là, on est plutôt dans des enjeux de l'édition privée. Mais par exemple, si on revient à notre question de l'édition scientifique publique, je sais que FMSH Diffusion, en fait, si dans mon sondage, il y a autant de je ne sais pas ou je n'ai pas les données, c'est parce que FMSH ne fait pas le travail de... Enfin, ne fait pas ce travail-là ou il ne s'applique pas. Et en fait, moi, je trouvais qu'il y avait quand même un manque de professionnalisation dans cette diffusion qui était quand même très problématique et qui était très visible pour le coup, parce que je sais qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des départs et tout, des changements de direction, je crois. Mais en fait, peut-être que c'est aux éditeurs indépendants, pardon, et aux éditeurs scientifiques publics de pousser FMSH Diffusion à se professionnaliser, à monter en compétences pour suivre mieux le taux de retour, le taux de pilon, mais aussi les représentants pour qu'ils puissent placer plus intelligemment les exemplaires chez les librairies. Et ça existe. Comme vous dites, la bonne lettre, il faut un énorme travail. Moi, j'ai déjà reçu en tant que libraire des représentants de belles lettres, Harmonie Mundi, Macassar, et ils savent faire. Ils vont pas vous pousser à commander 10 000 exemplaires, ils vont pas vous pousser à commander tous les titres dans le catalogue, ils vont le faire très intelligemment parce qu'ils connaissent la spécificité de chaque librairie là. Et du coup, ça, effectivement, c'est rare. Et je pense que FMSH Diffusion ou Serendip ou Digisco ne le maîtrisent pas très bien, en tout cas pour l'édition scientifique publique. C'est peut-être à nous de le réclamer aussi. Donc, je vois qu'il y a un commentaire d'Odile juste avant pour répondre à Marie-Pierre Rivière. Quand nous pourrons avoir accès à l'enregistrement, je pense tout de suite parce que du coup là il est enregistré et moi après je vais voir de mon côté pour vous l'envoyer tout de suite. Voilà. Après, donc, mes collègues et moi-même travaillons en bibliothèque. Nos achats dépendent notamment beaucoup de la plateforme Electre. Il me semble que nous n'avons pas de visibilité sur les choix techniques des éditeurs, diffuseurs et distributeurs sur Electre. Nous serions potentiellement intéressés par une visibilité sur ces informations, même si nous pouvons globalement éventuellement éviter les grands groupes lorsque nous avons le choix entre plusieurs publications. Ce n'est pas toujours le cas. Il me semble que nous n'avons pas de visibilité. Effectivement, donc Electre, c'est plutôt pour passer des commandes. Donc, il n'y a pas de visibilité sur les choix techniques des éditeurs. C'est pour ça qu'en fait, tout simplement, les bibliothécaires aussi, ils peuvent poser ces questions aux éditeurs, aux diffuseurs, aux distributeurs avec qui ils travaillent. En fait, pour moi, si vous voulez, l'écologie du livre, c'est un travail de réseau. C'est un travail de... d'aller chercher des informations, aller contacter les collègues, aller leur poser des questions et comprendre, essayer de comprendre tout ça ensemble. Donc pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de plateforme qui nous donne toutes ces informations. Il y avait un projet en cours qui a été soutenu par le SNE, mais en fait, à cause de manque de financement, il n'aboutira pas, par exemple. Mais ça, c'était un cours pour les éditeurs indépendants. Donc on voit qu'il y a quand même un besoin là-dessus et il y aura de plus en plus de communication là-dessus, j'espère et j'imagine. Mais effectivement, il faut aller voir chaque partenaire avec qui on travaille. Et c'est pour ça que moi, j'essaie d'attirer l'attention sur le temps qu'on dispose pour faire tout ça, parce que je suis consciente que ça, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps, mais il faut aller les voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou des choses sur lesquelles vous voulez revenir? Sinon, je vous propose d'arrêter un peu plus tôt parce qu'effectivement, moi, je pensais qu'on allait avoir un temps d'échange un peu plus long. Mais je pense avoir tout dit. Donc, si ça vous va, on peut arrêter là. Et que, comme je vous disais, de toute façon, vous allez avoir et la présentation et l'enregistrement. Effectivement, juste pour faire un petit moment de pub, sinon, parce que j'en profite à chaque fois. Pour adhérer à l'association pour l'écologie du livre, il n'y a pas de condition. Moi, je trouve que c'est toujours très utile d'adhérer à cette association. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous permet d'accéder à un Framachat qui se décline en plusieurs problématiques. Et en fait, ça vous permettrait de poser toutes vos questions. Si jamais un jour vous êtes à la recherche d'un papier, d'une marque, d'un imprimeur, des bons plans, c'est l'endroit pour le faire. Vous pouvez tout simplement mettre vos questions en disant bah, bonjour, moi j'aimerais bien me renseigner sur les papiers et il y aura au moins 10 membres qui vont vous répondre. Donc c'est très bien pour échanger des connaissances, poser des questions, mais aussi pour participer un peu plus activement à ce qui se passe. Parce que du coup, si vous voulez, c'est la seule association qui regroupe autant d'efforts pour une pratique éditoriale beaucoup plus éco-responsable et c'est la seule association qui regroupe les trois secteurs, donc les libraires, les éditeurs et les bibliothécaires. Et du coup, vous aurez une vue d'ensemble aussi. Et ça vous permettrait d'aller voir les libraires, les bibliothécaires pour pérenniser justement des partenariats aussi et pour vous rendre compte des problématiques concernant chaque secteur. Donc, il vous suffirait de taper Association pour l'écologie du livre pour adhérer, pour voir. Maintenant, on a un nouveau site internet aussi sur lequel on met pas mal d'informations et pas mal de publications. Donc, n'hésitez pas parce que du coup, récemment, ce qu'on se disait, c'est qu'on manque beaucoup d'éditeurs scientifiques publics dans ce réseau et on aimerait beaucoup vous voir nombreuses et nombreux. Aussi, donc après cette pub, comme on disait, deuxième pub, on a commencé à un GT écologie de livres aussi au sein de Réseau. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions aussi, surtout pour l'impact numérique aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, vos remarques, vos retours, vos interrogations ou vos retrouvailles aussi. Et on saura les transmettre à tout le réseau. Donc, encore une fois, les deux animateurs de ce GT, c'était Anne Koulikoff et Cédric Vigneault. Anne Koulikoff de MSH Nanterre et Cédric Vigneault de l'ANSSI Lyon. Donc, question de Séverine Guiton, l'adhésion est individuelle ou par maison d'édition? C'est individuel. Donc, vous adhérez, enfin, vous n'êtes même pas obligé de travailler activement pour adhérer, vous pouvez tout simplement remplir comme vous souhaitez le formulaire, il n'y a aucune condition. Sinon, Oui, effectivement, Catherine Curie, même si pour l'instant ça fait un effet de fourmi ou de colibri, c'est toujours important et on fait à notre échelle et on voit comment on peut avancer tous ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute, d'être présentes si nombreuses et nombreux pour ce premier webinaire. Voilà, nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions aussi. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ça a été utile et que ça vous a inspiré quand même quelques pistes d'amélioration dans votre service. Et sur ce, je vous dis encore une fois, bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Moi, je vais rester encore un petit peu pour l'enregistrement, mais voilà.